La classe de seconde NJPF.
Anaë.
Axel.
Emma.
Timéo.
La condamine en force.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission sur RPH Sud Radio Pays d'Hérault.
Nous sommes les élèves de seconde NJPF du lycée professionnel agricole La Condamine à Pézenas.
Et aujourd'hui, on prend le micro pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, gérer nos écrans.
Cette émission fait partie de notre projet podcast Santé et Développement Durable avec le service Jeunesse de la ville de Pézenas.
En partenariat avec le CISPD de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Installez-vous, on démarre, place aux questions, aux échanges et à la discussion.
Agnès, je suis animatrice à la ville de Pézenas. Donc j'interviens auprès des enfants, notamment sur le temps périscolaire. Et je suis aussi médiatrice pour le territoire numérique éducatif.
Je suis Chanel, je suis l'infirmière du lycée de la Condamine.
Et bonjour, moi je m'appelle Fanny et je travaille pour la Maison des Adolescents de l'Hérault. Et je suis chargée de prévention et promotion de la santé auprès des groupes en extérieur de la Maison des Ados.
Bien, maintenant nous allons importer de nouvelles questions sur le temps d'écran sur la radio Pays d'Hérault. Selon vous, quelles méthodes permettent de mieux gérer et limiter le temps d'écran au quotidien ?
Alors, quelles méthodes ? On va peut-être pour répondre un petit peu tous, hein, mais moi je pense qu'avant tout, il faut observer la façon dont on utilise les écrans. Essayer de respecter les consignes en matière de temps d'écran, à savoir peut-être limiter l'accès au téléphone en général, aux tablettes, le matin. Essayer de pas de garder un temps de repas aussi, préserver des temps d'écran, limiter les temps d'écran le soir. Et puis, bon, en ce qui concerne les jeunes plus particulièrement, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas dans les chambres. Enfin, c'est un peu compliqué, je sais bien, mais c'est un peu les quatre pas qui ont été identifiés. Pas le matin, pas à table, pas dans la chambre et pas avant de se coucher, pas avant de dormir.
Mais oui, il faut avoir un regard critique et se questionner, notamment sur les portables. Vous avez quand même tous une application qui permet à un moment donné de regarder combien de temps quotidien vous passez au moins sur votre téléphone et que ça puisse vous interpeller sur ce que vous auriez pu faire d'autre pendant ce temps-là. Par exemple, quand vous n'avez pas fini vos devoirs.
Par exemple, retirer les notifications, enfin, essayer de recevoir le moins de sollicitations possible de la part de ces appareils numériques, quoi. S'ils ne sonnent pas, on n'est pas tenté d'aller les regarder.
Et puis surtout, demander à un ado de limiter son temps d'écran en n'étant pas soi-même sur son téléphone en permanence, parce que sinon, en termes d'exemple, ça va être compliqué de demander l'inverse de ce qu'on va donner nous.
Ça peut être un contrat qui est établi à la maison entre les parents et les enfants, de se dire « ben oui, non, mais toi papa, maman, vous êtes tout le temps sur votre téléphone aussi ». Et donc que les parents puissent aussi regarder quel exemple ils donnent à leurs enfants. Et parfois de passer, enfin, on peut avoir des parents qui vont être radicaux, « non, je veux pas que tu aies le téléphone, je veux pas que tu joues une semaine, on garde ça pour le week-end ». C'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais de négocier ça aussi. Voilà, ma chambre est rangée, mes devoirs sont faits. Est-ce que je peux avoir un certain temps d'écran ? Et après, de vous rendre compte, vous, sur vos usages perso, qu'est-ce que vous y faites sur vos écrans ? Et de se dire, voilà, mais qu'est-ce que j'ai pas fait ? J'ai pas appelé mon copain, ça fait un moment que j'ai pas pris de nouvelles, ou j'ai pas... de vous dire qu'il y a autre chose comme loisir que les écrans.
C'est bien aussi de pouvoir identifier quels sont ces écrans à la maison, parce qu'on parle beaucoup actuellement de téléphone, etc. Mais on oublie aussi la télé. Et je sais qu'il y a des familles où la télé est allumée au quotidien. Il y a même des familles qui ne l'éteignent pas la nuit pour avoir, pas forcément un écran, mais un bruit de fond, hein, de ne pas se sentir seul. Peut-être qu'on peut rebondir là-dessus sur la question de la santé mentale, mais effectivement, ça existe aussi, hein, d'avoir toujours un bruit de fond, de se sentir vivant, exister, parce qu'on est entouré de bruit, quoi.
Alors qu'on a effectivement besoin de silence par moment et que le bruit peut être très néfaste à la santé mentale et que effectivement tout ce temps passé devant les écrans aussi peut être nuisible. Tout dépend de la fonction, c'est pas le diable à la maison, c'est pas un appareil à diaboliser, tout dépend de ce qu'on en fait. Si ça aide à faire des devoirs, si ça aide à se renseigner et pourquoi pas jouer aussi de temps en temps. Mais ça ne devrait pas être la seule source de jeu, d'animation et de lien social qu'on ait.
Une petite référence qu'on peut utiliser, c'est Faminum. C'est un site qui permet effectivement de construire ensemble, en famille, les utilisations des écrans. Chacun peut y mettre un petit peu ce qu'il a envie, ce qu'il ne veut pas. Et puis on définit chacun sa charte, les éléments qu'on y met. Et puis on signe, comme ça. Ça donne un petit cadre un peu plus respectueux.
Ça peut donner lieu à des défis familiaux. Si tout le monde joue le jeu, hop, c'est vendredi soir, on fait le compte, tout le monde regarde son temps d'écran. Ben, celui qui a la plus grosse diminution, le moins de temps d'écran, ben, c'est celui qui choisit le menu du soir. On lui fait le repas qu'il aime. Ça peut donner des choses. Bon, ben, moi, ce week-end, je fais moins de tâches ménagères parce que j'ai moins regardé les écrans. Enfin, ça peut être tourné aussi de manière, comme vous avez dit... pour que ça passe un petit peu mieux, que ça motive, quoi, qu'on trouve la motivation, et toujours dans un but de faire autre chose, de sortir cette tête de l'écran.
Pour moi, pour limiter le temps d'écran chez les jeunes, il faudrait que les jeunes n'aient pas de moments de blanc, pas de moments d'ennui, oui. Sortir, parce que moi, pour moi, à la seconde où je deviens ennuyé, je vais sur mon téléphone et je fais n'importe quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je pense qu'au contraire il est très important de s'ennuyer. Ouais, je pense que, enfin c'est pas, d'ailleurs pas que moi qui le pense, hein, mais les études montrent que le fait de s'ennuyer permet au cerveau de réfléchir à d'autres choses, de divaguer, de partir dans l'imagination, dans l'abstrait, de regarder le ciel. Alors ce que tu appelles l'ennui, c'est peut-être pas de l'ennui.
Oui, c'est les moments où tu n'as rien à faire, tu ne sais pas quoi faire, tu t'attends.
Ouais. Mais c'est ces moments-là qui peuvent être les plus constructifs.
Après, on peut sortir avec ses amis, jouer dehors, faire des activités comme de la pétanque ou du basket tout seul, ou jouer avec ses grands-parents à des jeux de société, ça fait du bien.
Oui, ça peut être aussi avoir une application dans la société, de faire partie d'une association, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit citoyenne. On a de la chance, en tout cas, sur le territoire de Pézenas, d'avoir un nombre très important d'associations. Et là, je pense qu'on peut, partager son temps pour les autres grâce à ces associations. Faire du jardinage... Il y a aussi, par exemple, à Pézenas, des jardins partagés, maintenant, des jardins familiaux. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que c'est très important de garder un lien avec la nature et de pouvoir justement aller s'ennuyer dans un jardin, d'aller goûter le parfum des fleurs, regarder les oiseaux dans le ciel.
Douche, mon odeur attire les mouches. Depuis CP, les meufs disent que je suis moche. Dans ma brochure du soleil, je me cache. Touche à mon PC, bâtard, je me fâche. H24, je joue sans relâche. En vogue avec des bougas et louches. Pas de meuf, y'a que le PC que je touche. Casse les couilles quand sur l'écran y'a une tache. Mes skins Fortnite me donnent la barre. Minuit, je dors pas, je me touche en bas. Je lâche toute la sauce en 3 minutes max. J'entendais pas, maman est là. Putain, oh putain. Maman, c'est pas ce que tu crois. Prends pas de douche, mon odeur attire les mouches. Depuis CP, les meufs disent que je suis moche. Dans ma brochure du soleil, je me cache. Touche à mon PC, bâtard, je me fâche. H24, je joue sans relâche. En vogue avec des bougas et louches. Pas de meuf, y'a que le PC que je touche. Casse les couilles quand sur l'écran y'a une tache. Ma vraie meuf, c'est ma play. Y'a qu'avec elle que je me plais. Ma vraie meuf, c'est ma play. Y'a qu'avec elle que je me plais. Ma vraie meuf, c'est ma play. Y'a qu'avec elle que je me plais.
pour la seconde question. Selon vous, quel effet le temps d'écran a-t-il sur la qualité du sommeil et la durée?
J'en parlais juste avant par rapport aux écrans, d'essayer de limiter les écrans avant d'aller se coucher. Et ça, c'est les études scientifiques qui le montrent. Hein, la lumière bleue sur les yeux, c'est vraiment problématique. D'ailleurs, de plus en plus, il y a des problèmes de myopie chez les jeunes et des problèmes de eye strain, de digital eye strain. Donc, que les yeux ne sont pas adaptés pour autant d'écrans. Hein. Et ça joue effectivement sur, non pas sur le, peut-être sur le temps de sommeil, mais aussi sur la qualité du sommeil. Ça, c'est,
Oui, tout à fait.
Vas-y.
Il y a cette histoire de lumière bleue et en fait qui envoie un signal au cerveau comme quoi il fait toujours jour et en fait ça empêche de produire de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et effectivement, ça va retarder l'endormissement. Il y a aussi le fait, en fonction de ce qu'on fait, des contenus, des usages qu'on a, qui peuvent entraîner un excès de stimulation et d'excitation, et qui vont faire que ça va être difficile après de retrouver le calme et de pouvoir plonger dans le sommeil. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, toutes les petites notifications des messages, de ceci, de cela, qui peuvent des fois arriver pendant la nuit, et même si on ne les entend pas, alors ça entraîne une hypervigilance qui va faire que ça perturbe le sommeil, on aura un sommeil qui est moins réparateur. Or, le sommeil est très important dans les apprentissages et dans la santé mentale, parce que pendant la nuit, le cerveau fait un nettoyage et il ordonne toutes les informations qu'on aura enregistrées dans la journée. Et en même temps, il y a aussi une fonction de nettoyage du liquide céphalo-rachidien, hein, comme les reins peuvent aussi avoir cet effet sur le corps. Et si on a un sommeil qui est perturbé ou qu'on ne dort pas assez, cette fonction de nettoyage ne s'effectue pas. Et ça va entraîner d'autres problèmes et de santé mentale et de santé physique.
Moi, si je peux dire quelque chose juste par rapport à mon expérience que j'ai du lycée, il y a souvent le problème avec le sommeil et les écrans des messages envoyés ou des commentaires et qui affectent souvent les élèves. Alors que si il était dans son lit à minuit en train de dormir ou en tout cas pas sur un écran, il n'y aurait pas tout ce schéma d'angoisse, d'inquiétude qui se met en place. Et après, forcément, le cerveau... comme l'a dit Fanny, il n'a pas du tout cette fonction la nuit. Il a d'autres choses à faire que de partir. Et puis la nuit, tout est plus noir, tout est plus compliqué à réfléchir. Donc vraiment, moi, je remarque qu'il y a ça aussi, c'est problématique, l'utilisation des écrans le soir.
Et juste, moi, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien d'heures de sommeil il vous faut par nuit à vos âges?
Je crois qu'à nos... âge, c'est entre 8 et 9 heures, je crois.
Bravo. Super. Et c'est même un peu plus. Ah, oui. Ouais, c'est encore sur l'adolescence, 10 heures. Oh. Ouais. Et c'est important aussi pour grandir, pour tout un tas de choses, le sommeil. C'est la nuit, pendant qu'on dort, que l'hormone de croissance se développe le plus, agit le plus. Et donc, le manque de sommeil, ça peut entraîner vraiment tout un tas de problèmes.
Mémoire aussi pour l'assimilation de votre cours, enfin comme l'a dit Fanny. Donc ça veut dire, vous, votre réveil, il sonne à quelle heure le matin à peu près?
6 heures.
6 heures. Donc ça veut dire, s'il vous faut 10 heures de sommeil, il faut vous coucher à quelle heure?
20 heures?
Ouais,
je crois.
20 heures. Hein.
Et moi, je me couche à 20h30, je prends une bonne habitude. Mais quand je me réveille, je suis encore très fatiguée.
Ok, bon, ça un peu dû à d'autres raisons, mais déjà, tu as une durée de sommeil. Après, c'est pas comme la qualité, hein, mais bon, déjà, tu fais l'effort d'essayer d'aller au lit quand même assez tôt. Donc, c'est pas mal.
On parlait beaucoup d'hygiène de vie. C'est vrai que l'environnement dans lequel on va dormir, il est aussi important d'être dans le noir, qu'il n'y ait pas des petites lumières rouges, bleues, vertes partout, parce qu'il y a un écran, un machin, un réveil, un truc. Et puis, on parlait du bruit aussi tout à l'heure. Hein, c'est très important d'avoir un environnement pour s'endormir qui soit vraiment calme. Alors, il existe aussi des dispositifs hein, de lumière qui vont progressivement s'éteindre, ou de lumière, luminothérapie, etc. Pour s'endormir. C'est...
Mais ça fait aussi s'endormir avec une télé. Alors, même quand on s'endort, enfin, Fanny l'a dit, mais notre cerveau, il va quand même récolter les informations. Même si on dort, tout ce qui va être dit ou entendu à la télévision, ça va rentrer dans notre tête. Alors, si c'est des trucs sympas et joyeux et bien, bon, c'est pas mal, mais c'est pas mal, il faut pas le faire. Mais bon, ça reste moins négatif que si c'est des sujets vraiment inquiétants ou des thèmes graves ou voilà, des choses qui peuvent nous faire peur, mais notre cerveau, il va quand même le prendre et le traiter, alors qu'on est en train de dormir. Donc surtout, il faut éviter de dormir avec du bruit non maîtrisé, une petite musique douce, pourquoi pas, mais après des informations qu'on ne va pas maîtriser, non. DJ Dylan FK, tanta putaria, DJ Holly Bush, o moleque ele é muito foda. Tralalero, tralala, 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 porco Dio e porco Allah.
À votre avis, quel effet un temps d'écran excessif peut-il avoir sur le cerveau?
Ce qu'on peut constater, c'est que déjà, ça peut nuire à la capacité d'attention. Et effectivement, les écrans, par exemple, lire sur son écran, c'est pas pareil que lire un livre. Et notamment après certaines applis comme du Snap, le fait de scroller tout le temps sur son téléphone, entre autres, ça n'aide pas à fixer l'attention et ça peut entraîner des problèmes d'attention. Et ensuite, il y a par rapport notamment aux jeux, l'histoire du circuit de la récompense aussi qui intervient. Et il faut savoir que l'être humain est complexe et le corps humain aussi. Et dans la chimie du corps, cette histoire du circuit de récompense est très importante. Et que ça peut aussi entraîner de l'éveil. C'est les histoires de dopamine, et qu'on peut vraiment, il y a l'addiction aux jeux vidéo qui est reconnue, pas forcément aux écrans, mais voilà, des temps d'écran excessif, ça va modifier la chimie du corps, et notamment ses capacités d'attention, où après on a du mal à rester concentré sur une même tâche à un bon moment.
Notre cerveau, il va chercher cette dopamine, d'avoir ces shoots comme quand on scrolle. Et donc, il va rechercher après dans la vie. Et c'est sûr, on aura une différence entre un comportement de quelqu'un qui sera en permanence sur son téléphone ou quelqu'un qui le sera moins. On verra des différences. Comme chez les enfants qui... Enfin, les enfants, bon, normalement, on dit que c'est pas avant 3 ans les écrans. Bon, c'est vraiment un garde-fou pour limiter, hein, parce qu'on parle... parfois de plus 6-7 ans, vraiment sans écran aucun. Les dessins que font les enfants qui sont confrontés à des écrans et ceux qui ne sont pas, ils sont vraiment très très différents. C'est le jour et la nuit quand on voit des dessins d'enfants qui font les mêmes dessins. Donc voilà, clairement, là, l'impact, il commence dès qu'on regarde, commence à regarder les écrans, quoi.
Et tout à l'heure, on parlait du fait de s'ennuyer par moment. Et en fait, justement, d'avoir par moment le cerveau un peu au repos et de ne pas être dans l'action, dans le fait de faire quelque chose, ça amène le cerveau à de la créativité. Et on se rend compte que si l'écran il va occuper tout l'espace libre qu'on a, eh bien, on va être justement moins stimulé. Enfin, cet ennui ne sera pas là. Ça va nous occuper tout le temps et on n'est pas dans la créativité, dans la création, dans... Voilà, de réfléchir à son avenir. Donc c'est important de limiter. Moi, j'ai souvent tendance à dire, quand j'interviens auprès des groupes de jeunes, si c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Donc de réfléchir à ça, à quel moment c'est vous qui utilisez le portable ou c'est le portable qui vous utilise à vous. Et de ne pas être esclave de cet outil-là.
Par exemple, sur Instagram, il y a des études qui prouvent clairement que ça augmente les signes de dépression. Ça déprime, ça rend vraiment pas bien de rester trop longtemps sur Instagram. Pourquoi ? Bah parce qu'on voit que des images de gens qui postent des photos que choisissent, mais nous on voit sur leur compte que des belles photos, restaurants, voyages, les habits, les activités, et nous bah, ça nous ramène à la vraie vie, parce que eux c'est pas leur vraie vie non plus, c'est des parties de leur vie qu'ils choisissent de nous montrer, mais nous si on reste juste à regarder, on se dit waouh, leur vie elle a l'air top, et la mienne bah, nous forcément on a des vies normales, comme eux derrière l'écran, et nous on se dit oh bah moi je fais pas autant de choses, je vis pas autant de choses, et voilà, et ça nous met dans une situation triste alors que ce n'est même pas la réalité en plus. Donc il faut vraiment se méfier de ce qu'on peut voir.
Bon, on va passer à la prochaine question. Quelles sont les conséquences d'une utilisation excessive du téléphone sur les relations sociales ?
Le fait d'utiliser trop les écrans amène à une grande sédentarité et à un isolement croissant. Donc on est seul face à son écran et on a même vu, on voit même régulièrement, même ici au lycée, des personnes qui sont côte à côte mais sur leurs écrans et qui se parlent entre elles mais par écran interposé. Bon ça, moi j'ai un peu du mal à comprendre personnellement. Mais je trouve que le fait d'avoir les mains sur son téléphone empêche aussi la créativité dont on parlait tout à l'heure et puis l'activité manuelle qui elle au contraire va permettre de faire des connexions neuronales et de savoir utiliser ses mains et pouvoir savoir couper avec des ciseaux, couper au cutter, faire des pliages, tout ça c'est quand même des notions super importantes et qui sont empêchées par l'utilisation excessive des écrans.
On peut peut-être nuancer parfois lorsqu'un jeune est un peu isolé, le téléphone entre autres ou le réseau social peut être aussi la façon de rester en contact avec ses pairs, avec ses proches, avec des fois de la famille qui est un peu éloignée. Mais effectivement, il faut toujours avoir ce regard critique, qu'est-ce que je fais sur les écrans. Regarder des films toute la journée, ça peut aller bien une fois. Si on fait ça de tous ces week-ends, si on fait ça de toutes ces vacances, être devant la télé, devant des séries, quelle est la plus-value pour vous, pour votre avenir, pour même le présent, hein ? Effectivement, après, il y a toutes ces histoires de comparaison sociale dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, notamment les images et tout, de se dire, ah ben t'as, un tel il fait ci, un tel il fait ça, il est beau, il est bien habillé, il s'éclate dans sa vie. Ce qui est parfois pas la réalité, parce qu'on a toujours tendance à montrer ce qui est le mieux et nous montrer sous notre meilleur jour. Et il faut savoir que c'est pas forcément la réalité, donc il y a des fois cette comparaison sociale qui peut être compliquée. Et ensuite, par rapport aux relations sociales, il y a toutes ces histoires de cyberharcèlement. De se dire parfois, et ça peut être humain le harcèlement ou de pas s'entendre entre camarades, hein, ce qui est pas bien. Ce qu'il y a, c'est que ça se prolonge aussi au travers du numérique. Et ça peut gravement nuire à notre santé mentale.
Pour moi, les écrans, le portable, ça nous fait oublier comment bien communiquer. Parce que sur le téléphone, il n'y a plus de discussion. C'est surtout des lettres. Il n'y a pas de face-à-face. Ça nous fait oublier.
Tout à fait. Tu as entièrement raison. Par rapport au langage, et on parle même, il y a des études qui démontrent effectivement aussi que dans les interactions sociales, quand on est face à face, on va apprendre à décrypter, à avoir une sensibilité sur ce qu'on perçoit de l'autre. Quelles sont ses émotions et tout. Alors qu'à travers un écran et juste par l'écrit, il n'y a pas toute cette dimension émotionnelle. Elle ne passe pas à travers l'écran. Donc, on peut l'illustrer parfois par des smileys, tout ça. Mais rien ne vaut les bonnes interactions sociales, de se voir face à face, se regarder dans les yeux et que le courant passe et qu'on puisse aussi déchiffrer les émotions chez les autres. ce qui n'est pas possible avec les écrans.
S'il n'y a pas le ton, s'il n'y a pas le sourire, s'il n'y a pas l'émotion qui passe dans les yeux, ça peut être compliqué après de pouvoir se repérer dans ces relations sociales. Ouais.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh. Je devrais m'éloigner. Loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler. Où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi je m'en vais marcher. Naïve comme jamais. Loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule. Fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. À ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents.
En quoi un usage excessif des écrans peut-il influencer notre santé globale?
Mais on peut parler de santé physique par rapport à la sédentarité, hein, de rester tout le temps assis sur sa chaise, assis devant sa télé, devant sa PlayStation ou Nintendo pour citer plusieurs marques. Ça peut entraîner des problèmes de sédentarité, donc d'obésité, de maladies cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques, mal au cou, mal au dos, c'est les mauvaises postures qu'on peut avoir parfois. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, un peu les troubles de la vision. L'être humain, il n'est pas né avec la technologie et en fait, il peut y avoir des difficultés à force de rester trop longtemps devant les écrans pour la vue. Et sur la santé mentale, on sait très bien qu'un usage excessif, ça peut entraîner des problèmes d'anxiété, de dépression, que ça peut avoir un impact sur le sommeil, on l'a vu tout à l'heure, et sur la santé sociale, j'ai envie de dire, donc de l'isolement, ou des fois ça peut entraîner aussi des disputes à la maison quand les parents ils vous disent « ça suffit maintenant d'être devant tes écrans, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas rangé ta chambre, va prendre l'air ». Et donc ça peut aussi des fois entraîner des conflits familiaux.
Quel est l'impact du temps d'écran sur la santé physique et mentale?
enceinte.
On y a toujours, oui, et plus ou moins répondu. Après, peut-être à insister sur la santé mentale, on en discutait tout à l'heure, de se dire qu'en fait, les algorithmes sont là pour répondre et alimenter votre temps d'attention. Et capter votre temps d'attention. Et que si vous avez tendance à regarder des contenus tristes, mais il vous sera suggéré de plus en plus de contenus tristes. Alors que si, au contraire, vous ne regardez que des choses qui font rire, ça va avoir tendance à égayer votre journée. Et d'avoir vraiment conscience de ça, et surtout quand on ne va pas bien, les écrans, les algorithmes, et surtout pour TikTok notamment, mais pas que, ne vont pas vous aider à aller mieux. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Il y a eu, l'actualité a démontré déjà des suicides et tout chez des jeunes, et en fait avec des choses qui affectaient leur santé mentale, qui tournaient en boucle et qui faisaient que les choses allaient, les personnes allaient de moins en moins bien. Et effectivement, on n'a pas parlé trop de l'IA, mais on sait très bien que certains jeunes peuvent utiliser certaines IA comme ChatGPT, pour ne pas la nommer, mais pas que, comme un peu le confident, comme un peu un conseiller. Et qu'en fait, toutes les informations qui sont apportées par l'IA sont soumises à avoir un regard très, très, très critique. Parce que l'IA a horreur du vide, ne vous répondra jamais « je ne sais pas », consulte quelqu'un d'autre, et peuvent amener à vraiment à ce que les gens n'aillent pas bien, quoi. Voilà, se dire que rien ne vaut se retrouver entre amis ou se retrouver dans la famille, de se voir de visu plutôt que de s'entendre au téléphone, notamment dans le langage non-verbal, d'appréhender les gestes, les expressions des visages, qui est important. Et dans les interactions sociales, effectivement, des fois, il peut y avoir l'attention d'une personne avec qui on a envie de discuter, de passer du temps, qui lui va être accaparé par son téléphone, et on n'aura plus notre ami dispo pour pouvoir discuter, ou notre petit ami, notre... Voilà, ou un parent, hein. Parfois, on a envie de parler à son enfant, et s'il est un peu devant son téléphone, et bien la communication elle sera moins facile. Et pareil pour un ado, de se dire, j'ai envie de parler à mon copain, si mon copain il est sur son téléphone, un œil sur le téléphone et de l'autre côté une oreille un peu pour moi, en fait il ne sera pas entièrement là pour nous. Et c'est ça qu'il faut entre vous aussi être vigilant. À vivre pleinement un moment présent, et quand vous êtes entre vous, d'être pleinement là pour son copain, sa copine.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était la seconde NJPF du lycée La Condamine à Pézenas, au micro de RPH Sud Radio Pays d'Hérault. Cette émission a été réalisée dans le cadre de notre projet podcast Santé et Développement Durable avec le service Jeunesse de la ville de Pézenas.
En partenariat avec le CISPD de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée.
Un grand merci à nos invités pour leur disponibilité et aux intervenants qui nous accompagnent dans ce projet.
Et merci beaucoup à vous aussi.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
La classe de seconde NJPF.
Anaé.
Axel.
Emma.
Timéo.
La condamine en force.